Alors, je suis à Charleroi, en Belgique, dans ce qu'on appelle le Pays Noir. On est en Wallonie, donc c'est un espace francophone, plus particulièrement dans la province du Hainaut. La métropole de Charleroi représente à peu près 600 000 habitants. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Ève, qui va me présenter le musée des Beaux-Arts qui a rouvert il y a quelques mois. On est en mars 2023. Le musée a rouvert au mois de décembre, après plusieurs années de rénovation, où il présente un nouvel accrochage, son espace permanent et une grande exposition, notamment consacrée aux éditions Dupuis. Dupuis, c'est l'éditeur de Spirou, Gaston Lagaffe. Et les éditions Dupuis sont installées à Charleroi.
Bienvenue dans mon cabinet de curiosité, un podcast de Cédric Rémière. Je vous remercie chaleureusement de votre écoute.
Donc je rentre dans le musée et je ne regarde rien. Et je me dirige directement vers la petite salle. Et là, je vois une photo. Je lis ce qu'il y a écrit en dessous de la photo. Ma tante était amie avec Barbara, parce que Barbara a vécu chez ma grand-mère à Marché-le-Pont pendant quelques temps.
La chanteuse Barbara.
La chanteuse Barbara. Et comme je vois ça et que je vois des photos, et ma tante était une artiste peintre, donc elle fréquentait le milieu des artistes à Charleroi.
D'accord.
Je m'approche et je vois... C'est le portrait craché de mon papa, mais c'est ma tante. Donc je vois ma tante sur une photo dans le musée, et là je me dis, waouh, quoi. Même ses enfants n'ont jamais vu cette photo. Donc j'aimerais bien me mettre en contact avec quelqu'un pour avoir cette photo.
C'est Eve Delplanque, responsable administrative et financière du musée de la ville de Charleroi, qui nous accompagne dans cette visite. Et je la remercie infiniment de nous avoir consacré ce temps.
Donc, en fait, au sein du musée des Beaux-Arts, on a voulu aussi pouvoir avoir un lieu entre deux, c'est-à-dire entre les collections permanentes et entre l'exposition temporaire. Un lieu où les gens pourraient se poser. Et donc, on a développé ici le lieu de l'Agora, donc, qui est le premier lieu quand on rentre après l'accueil, qui donne vraiment une vision sur les colonnades qui composent l'architecture des anciennes écuries de Feld. Et donc, on a dans ce lieu la possibilité de pouvoir organiser aussi bien des conférences que des vernissages, que des événements un peu plus décalés, des performances artistiques, des animations pour enfants. On peut aussi poser les groupes quand on reçoit des groupes. Les gens peuvent aussi se poser, se balader. C'est ici que, d'une certaine manière, on peut aussi vivre un peu plus bruyamment que ce qu'on a l'habitude de faire quand on est dans des salles d'exposition d'un musée des Beaux-Arts où on a cette habitude de chuchoter, de te faire le moins de bruit possible pour que chacun puisse contempler les œuvres. Mais ici, dans cette agora, on peut vivre. Donc c'était très important aussi pour nous. Et c'est pour ça qu'on a développé dans la mezzanine qui est au-dessus de l'agora un espace parents-enfants où les parents et les enfants peuvent se poser, peuvent expérimenter le musée différemment à travers des jeux. Donc on a fait concevoir des puzzles, des mémos, des jeux domino, des jeux de cartes autour des œuvres d'art du musée. Et donc c'est une manière d'appréhender le musée différemment aussi.
Oui, avec voilà. Le plaisir.
Avec le plaisir et le jeu entre parents, enfants. Et voilà, le côté aussi, on se pose entre deux, on évacue un peu de la pression qu'un enfant peut avoir quand il est cadré très longtemps. Mais c'est aussi une manière de pouvoir à un moment souffler entre deux.
D'accord.
Voilà, c'était important pour nous d'avoir ces moments de repos.
Cet espace d'agora, pour le décrire, il est légèrement en contrebas de la rue.
Tout à fait.
C'est un espace très lumineux et,
voilà.
Comme oui, tu le disais, habillé de ces colonnades
qui viennent un peu composer l'espace, voilà, avec ce sol en granito qui donne un côté aussi assez chaleureux, comme ça, assez lumineux par rapport. Par rapport au bâtiment. Donc on est resté vraiment dans des couleurs très sobres qui sont le blanc, le gris pour mettre en valeur le lieu plutôt que d'étouffer avec des couleurs trop chaleureuses. Voilà. Donc on a créé tout un énorme escalier qui permet de monter dans les collections permanentes. Donc cet escalier n'existait pas. Donc ça, ça a été vraiment une grande percée au niveau architectural. C'est un geste très fort. Et ça nous permet de pouvoir monter... au premier étage, où là, ben, on a donné vraiment de l'importance aux collections, parce que ben, il fait près de 900 mètres carrés et il est voué aux collections.
Voilà. Alors, les grands thèmes des collections.
Donc, on a pris le parti, au départ, de se poser et de dire ben, d'où venait le Musée des Beaux-Arts de Charleroi. Donc, un peu rappeler ça. Il faut savoir que le Musée des Beaux-Arts, son histoire commence avec le don d'une œuvre qui est le buste de François-Joseph Navet réalisé par Hérin. Et ça date de 1889. Voilà, donc ça c'est le départ de la collection. Il n'y a pas encore de musée à l'époque, il y a une œuvre. Et ces œuvres, elles vont tout doucement, cette collection, elles vont se développer grâce à un homme qui est Jules Destrée. Donc voilà, donc on a un portrait de Jules Destrée peint par Pierre Paulus à l'entrée du musée. C'est justement pour illustrer toute cette histoire autour des collections, sachant que Jules Destrée était un avocat, un mécène des arts, un ministre, et il a fait énormément pour la culture à Charleroi. Et c'est lui qui va commencer à développer les collections, que ce soit par des acquisitions, des legs, des donations. Et en 1930, quand il réfléchit l'hôtel de ville de Charleroi, il va penser à intégrer dans les plans de l'hôtel de ville un musée au deuxième étage. Donc en 1936, on a un musée des Beaux-Arts au sein de l'hôtel de ville.
D'accord.
Alors ce musée, il est accessible sur rendez-vous au départ. Et à partir de 1980, quand les politiques des musées se développent, alors là, il est accessible tous les jours. Voilà. Alors jusqu'en 2007, les collections se trouvent dans le musée des Beaux-Arts au sein de l'hôtel de ville. Et puis on a la malchance d'avoir un plafond qui s'effondre et donc une urgence de changer de lieu et de trouver un lieu qui pourrait à nouveau montrer les œuvres. Mais ce lieu, à l'époque, ça va être le Palais des Beaux-Arts de Charleroi, donc les deux plateaux qui étaient dévolus aux expositions temporaires. Donc au départ, on réalise des expositions temporaires autour des collections, autour d'artistes. Et puis en 2012, là, on va faire un étage collection permanente avec une scénographie propre et un étage exposition temporaire.
D'accord.
Voilà. Alors le problème, c'est qu'on n'a pas réglé le souci du Musée des Beaux-Arts en soi quand on le place dans le Palais des Beaux-Arts. Parce que jusqu'à présent, le Musée des Beaux-Arts, malgré la richesse des collections, il est toujours imbriqué dans un autre lieu. Donc soit il est au sein d'un hôtel de ville, soit il est au sein d'un Palais des Beaux-Arts. Mais il n'a pas une identité propre, une vision propre. Et pourtant, les collections méritent vraiment d'avoir un lieu, un écrin dans lequel on pourrait les exposer à part entière. Et ce lieu, en fait, le bourgmestre va le trouver, donc le bourgmestre Paul Magnette, à l'époque, va trouver que l'LD de l'hôtel de police, qui étaient les anciennes écuries de Feld, ça faisait partie du grand complexe avec les écuries de Charleroi Danse actuellement, le manège qui était là et qui a été détruit pour pouvoir concevoir la tour Jean Nouvel. L'LD sont les écuries et ces LD, elle n'était pas en fait affectée réellement. Elle devait être des bureaux, mais ça tardait un peu à prendre place. Et donc le bourgmestre, face à l'immensité du lieu, s'est dit, là, ça peut devenir un musée des beaux-arts à part entière. Il y a de la lumière, il y a du potentiel.
Donc c'est la première fois en fait que la collection de beaux-arts a un lieu dédié.
Un lieu propre, oui, c'est ça, un vrai lieu pour la mettre en valeur. Et donc à partir de là, se sont succédés les projets, les concours d'architecture, projets d'architecture, travaux, etc. Il y a eu tout un travail aussi sur les collections. Donc on a fermé le Palais des Beaux-Arts en 2019. Ce n'était pas simplement pour fermer le temps de se concentrer sur le nouveau musée, mais c'était aussi parce qu'on en a profité pour faire tout un travail autour des collections, que ce soit au niveau de l'inventaire, au niveau des restaurations d'œuvres d'art, la sélection des œuvres qui allaient venir ici. Et ça a été tout un énorme travail. En parallèle, on a conçu des nouvelles réserves qui sont externalisées, donc elles ne sont pas dans le nouveau musée, elles sont en dehors de la ville, dans un lieu propre, et elles ont été tout à fait conçues dans les nouvelles normes de conservation des œuvres d'art, avec du matériel adapté en fonction de la nature des œuvres, etc. Mais tout ça, ça a pris énormément de temps de réflexion. Il a fallu étudier les collections, savoir quel type d'œuvres on avait. Donc on a des peintures, on a des gravures, on a des lithographies, on a des dessins, on a des sculptures, des céramiques. Voilà, c'est vraiment très très large, et on a des grands formats, des petits formats au niveau des peintures. Donc ça nous demandait d'avoir du mobilier vraiment spécifique, mais une étude aussi globale des collections. Et donc tout ça on a fait. On a fait un nouvel inventaire, on a complété cet inventaire, on a analysé les collections, on a ressorti les informations principales pour pouvoir créer ces nouvelles réserves. Et de là, on s'est dit, quel parcours scénographique on va faire au sein du nouveau musée des Beaux-Arts? Qu'est-ce qu'on va raconter de la collection? Et donc, comment on va faire pour sélectionner une centaine d'œuvres dans 4000 œuvres qui composent les collections? Donc ça a été aussi un vrai challenge, parce que c'est énormément de frustration. On aimerait tout montrer, il y a tellement de choses magnifiques, mais on n'a pas assez de place pour tout montrer, pas d'un coup en tout cas. Donc l'idée, c'est de tourner les collections. Et donc dans ce premier accrochage, qu'est-ce que je mets? Qu'est-ce que je veux transmettre? Quelle est l'histoire que je veux raconter? Et donc ça, c'est tout le scénario d'exposition qu'on a dû rédiger pendant toutes ces années de fermeture. Donc, le public a vécu ça comme, il ne se passe plus rien au Musée des Beaux-Arts, mais nous, en backstage, à l'arrière, on a tout reconçu. On a reconçu la nouvelle politique du musée, politique qu'elle soit d'exposition, de monstration, pédagogique aussi. L'idée, c'était vraiment de se dire comment on crée un nouveau musée, comment on redynamise la chose, comment on revient au contact du public aussi, après autant d'années. Parce que pour beaucoup, on était à l'hôtel de ville, puis il n'y a plus rien eu avant ici, parce qu'ils nous ont perdu de vue. Et donc, c'est comment on vient à nouveau montrer qu'on existe et qu'il y a toute une histoire qui leur appartient, qui se trouve ici. Voilà.
Et c'est donc une vraie, véritable transformation à l'occasion de la venue de ces nouveaux locaux.
C'est ça. Et donc, l'histoire, elle a été pensée par thématique, même si il y a un fil historique sous-jacent. Donc l'idée, c'était quand même que le public, le visiteur, puisse se raccrocher à quelque chose de concret, de perceptible par tous, c'est-à-dire un lien, un fil chronologique. Et donc on part littéralement du 19e siècle pour aller vers l'art contemporain et le 21e siècle avec des artistes carolo locaux. Et dans le 19e siècle, on commence par où? On commence par François-Joseph Navet, qui est une grande figure de l'art, aussi art carolo, parce qu'il est né ici à Charleroi. Il est parti par faire sa formation chez David à Paris, Jacques-Louis David, qui est quand même un grand nom du néoclassicisme français, qui lui a appris différentes techniques artistiques. Il est revenu ici avec ses techniques et il est devenu professeur et puis directeur de l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles. Donc il a formé des générations d'artistes et c'est un très très grand portraitiste. Donc il faut savoir que le 19e siècle à Charleroi, c'est l'ère industrielle, donc tout doucement les industries se développent, et donc on a aussi toute une bourgeoisie qui se développe. Et Navet va être le peintre de cette bourgeoisie, parce qu'il va réaliser énormément de portraits de bourgeois, dans un style très très classique, comme ici les enfants en chien. Donc on a vraiment ces deux petits-enfants, cette jeune fille avec sa robe bleue, avec des bleus éclatants, Elle a été entièrement restaurée. Là, elle a retrouvé ses couleurs, donc elle est vraiment magnifique. On a cette petite fille ou ce petit garçon, parce qu'à l'époque, on habillait aussi bien les petits garçons que les petites filles en robe. Et donc là, il peut y avoir une confusion. Qui mange ses petits biscuits, là, ses petites galettes à l'avant-plan, avec le petit chien qui est juste à côté. Donc, c'est une scène de vie quotidienne avec des enfants assis sur une pierre, un petit chien, voilà, la petite fille qui porte des fleurs. Donc, on peut raconter toute une histoire autour de cette œuvre. Et ce qui est assez impressionnant, c'est la qualité d'exécution de l'œuvre, donc la précision du coup de pinceau avec ces chairs représentées, cette couleur des carnations, ces rouges dans les joues, le regard. Voilà, c'est vraiment, c'est très très caractéristique de Navet. Après, il a fait aussi des œuvres un peu plus religieuses, comme ou des scènes aussi de vie napolitaine, parce qu'il est parti en Italie aussi pour parfaire sa formation. Donc on a vraiment tout un pan d'œuvres. Et puis en vis-à-vis, on a l'orientalisme, qui est fort présent aussi dans les collections du Musée des Beaux-Arts, et notamment par la personne, la figure de Jean Portals, qui était le gendre de Navet.
D'accord.
Et son élève, et qui tout doucement va s'éloigner du professeur pour aller vers un art de l'ailleurs, un art où il va représenter ce monde qui est seulement découvert à l'époque, hein, avec les voyages de Napoléon et toutes ses campagnes vers l'Orient. On va découvrir une autre civilisation, une autre culture, et on va commencer à vouloir en témoigner, à s'en imprégner. Et c'est ce qu'on a un peu à travers ces œuvres orientalistes, où on a ces témoignages artistiques avec le mur des lamentations, par exemple, mais aussi avec le portrait de la jeune nord-africaine, avec tous ses apparats, son foulard, ses couleurs, ses bijoux, ses dorures. Voilà.
Et alors j'ai vu là, à côté du premier tableau que tu décrivais, là,
oui.
Les deux enfants avec le chien, il y a un cartel avec un flashcode.
Oui.
Parce qu'il n'y a pas de petit cartel à côté des tableaux.
C'est ça. Voilà, donc ça, c'est aussi à expliquer. On a décidé que l'idée, c'était que les œuvres communiquent d'elles-mêmes avec le public. Donc on est en train de renouer avec tout un public qu'on a perdu pendant des années. Et nous, l'idée, c'était que les œuvres soient l'interface avec ce public. Donc on n'a pas mis d'explication directement au niveau de l'œuvre, parce que souvent, le réflexe va être d'aller d'abord voir l'information avant de contempler l'œuvre. Et nous, on trouvait ça dommage. Surtout qu'elles ont été placées à une hauteur assez basse. Donc ça, c'est aussi un parti pris. On est à 1,45 m de ligne d'horizon. D'habitude, c'est 1,55 m, 1,60 m. Donc là, c'était vraiment cette idée de se retrouver presque les yeux dans les yeux avec les portraits qu'on peut admirer, dans les paysages qu'on admire. Et donc, si on plaçait ce cartel, donc cette explication à côté de l'œuvre, on sait que le réflexe va être de « Ah, j'ai jeté un coup d'œil et je vais voir l'information, je lis, j'ai vu, je pars ». Alors qu'ici, ce qu'on veut, c'est que la personne puisse entrer dans ce portrait. Ici, la jeune nord-africaine, elle a un regard qui est posé sur quelque chose qu'on ne voit pas. Elle a sa main sur sa bouche qui est enveloppée dans son drapé. Et donc, elle est songeuse, elle raconte toute une histoire. On ne sait pas laquelle, mais on peut percevoir qu'il y a quelque chose à dire. Et on peut l'interpréter, on peut vivre cette histoire en fonction de ses émotions du jour, de sa sensibilité, etc. Et donc, c'est dommage de se dire que tout ce que l'œuvre peut raconter va être balayé par une information trop présente. Et donc, l'information, elle est là, elle se retrouve sur des panneaux. Et donc, on a à chaque fois la reproduction de l'œuvre à côté de l'explication qui nous permet de comprendre ce qu'on a vu. Voilà, donc ça, c'est vraiment un parti pris qu'on a choisi.
Et pour que le visiteur soit, et deux temps, un temps où il découvre dans la salle, il est face aux œuvres, et puis un temps où sont concentrées les informations, et ce panneau, il n'est pas très grand, donc de manière assez synthétique, on a accès à un certain nombre d'informations.
Voilà, tout à fait. Donc on a développé ça avec un guide des collections qu'on peut avoir. Donc là, on est déjà en pénurie parce qu'on arrive à presque 10 000 visiteurs en 3 mois, ce qu'on n'avait pas imaginé. Donc on a dû recommander des guides des collections. Et donc, ces petits guides, ils concentrent un peu plus d'informations sur les différentes thématiques qu'on développe dans le musée. Et ils donnent aussi des informations, des indications sur certains artistes, sur certaines œuvres. Et donc, si on veut avoir plus d'informations que ce qui se trouve au sein même du musée, on peut. Il est distribué gratuitement, donc l'information, elle est là, elle est à portée de main. Et donc, c'est une démarche aussi du visiteur d'aller la chercher, de la lire, de prendre le temps, mais elle est là.
C'est-à-dire que si on est frustré, en fait, et qu'on n'a pas assez d'informations, c'est ailleurs, c'est le temps de lecture chez soi, tranquillement.
Oui, voilà. Et le petit QR code, c'est parce qu'on a en fait développé avec une artiste qui est Alexandra Serrazi, des podcasts autour de trois œuvres du musée. Donc ici, il y en a deux qui sont montrées. Il y a « Les enfants aux chiens » de Navé et « L'homme à la guitare » aussi de Navé. Et là, en fait, c'est une petite fille qui raconte aux enfants l'histoire de l'œuvre à travers un podcast, d'où le QR code. Okay. Voilà. Donc on a une deuxième salle qui tourne autour du paysage. Alors dans les collections, on a énormément de paysages. Donc ce qu'on a voulu montrer, c'est le passage du paysage classique. Donc classique dans le sens paysage à part entière, redécouvert à travers le romantisme, mais des mouvements comme l'impressionnisme ici avec le Duc, Canal à Venise, où on a cette profusion de couleurs, cette chaleur, cette matière très propre aux impressionnistes. Et on a des œuvres de Gustave Courbet, James Ensor, Félicien Rops, qui, eux, représentent des paysages qui peuvent paraître plus classiques dans le sujet, des montagnes, la mer, des étangs, mais avec une technique propre aux artistes. Et ce paysage, en fait, nous permet d'aller vers le paysage industriel propre à Charleroi. Et donc, on a différents artistes qui se sont appropriés ce paysage, dont Maximilien Luce, qui est un artiste français, qui était de passage en Belgique, à Bruxelles, et qui a demandé à d'autres artistes où est-ce qu'il pourrait aller puiser l'inspiration pour des paysages industriels, et on lui a conseillé de venir au bord de Sambre à Charleroi. Et c'est comme ça qu'on a hérité de certaines œuvres magnifiques sur ces usines de bord de Sambre qu'on peut encore admirer aujourd'hui sous un autre angle, les terries, les hauts fourneaux, qu'on retrouve magnifiquement coloré, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Charleroi n'est pas un pays noir sombre, mais il y a toute cette couleur, cette densité, des bleus, des rouges, etc.
Oui, donc, le tableau de ce paysage industriel de nuit, là, on a l'impression que ce sont des aurores boréales.
Tout à fait, voilà. Donc on a le feu aussi, le feu dans l'industrie va éclairer, va créer une certaine chaleur, une ambiance aussi industrielle, tout ce qui est métal. Le métal, quand on se balade encore aujourd'hui, la nuit au bord de Sambre, on a encore toute cette vision de ces énormes feux au sein des industries, on peut les voir, on peut voir toute cette vie et toute cette profusion de couleurs. Donc voilà. Et puis on a Pierre Paulus qui lui est vraiment un artiste très cher à Jules Destrée à l'époque, mais aussi du coup dans les collections parce qu'on a énormément d'œuvres de lui. C'est un artiste du réalisme social. Et donc au départ, il part de paysages très anodins, comme on peut le constater dans ici les dunes à Knokke. Donc on est vraiment dans un paysage de bord de mer, avec le sable, le ciel bleu, la verdure qu'on a sur les dunes. Et puis, on a un contraste énorme quand il découvre Charleroi et ses paysages. Donc, il est né à Charleroi. Mais à partir du moment où il va vraiment s'imprégner du paysage industriel, alors là, on a une autre densité au niveau de la peinture. On a une technique qui est beaucoup plus gestuelle. Il va vouloir représenter des ciels très denses, avec une certaine atmosphère, comme ça. Il s'inspire beaucoup du smog sur la Tamise, parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, il va émigrer en Angleterre. Et ça va vraiment, vraiment être quelque chose d'omniprésent dans ses œuvres, cette densité du ciel. Les nuages sont presque palpables, la fumée. Dans les fumées de Paulus, on peut presque prendre cette fumée dans les mains, tellement elle envahit le ciel et elle paraît si réelle.
Ah oui, il rend le volume de ces fumées.
Tout à fait. Voilà. Et donc, les œuvres de Paulus nous permettent d'arriver dans le réalisme social. Et le réalisme social, évidemment, c'est en lien avec l'industrialisation, c'est en lien avec les conditions de travail des ouvriers, peu importe l'industrie, c'était des conditions de travail très précaires. Et donc, il y a eu différents mouvements pour dénoncer tout ça. Et le réalisme social est une sorte de témoignage de toutes ces conditions-là. Et donc, souvent, c'est un mouvement qui est très sombre, très noir. Et ici, on a décidé de pouvoir en montrer une autre vision. Donc, ce sont toutes des œuvres du réalisme social, mais avec un angle d'entrée différent. C'est-à-dire que ce sont toutes des femmes au travail, ou des femmes dans leur vie d'accompagnatrices d'ouvriers, comme les mères à l'enfant sur le bord de Sambre de Pierre Paulus, où là, clairement, c'est une mère avec enfant, une mère ouvrière, donc ça se voit dans sa tenue, dans sa manière de se mouvoir sur le halage. Et on a des femmes qui sont porteuses de canons, qui conductrices de wagonnets, ramasseuses de scrabies, hiercheuses, qui sont toutes des fonctions qui étaient dévolues aux femmes et qu'on oublie souvent quand on parle de cette ère industrielle, de tous ces mouvements ouvriers. Elles étaient là aussi, et dans une vision, je dirais, plus positive, dans le sens où, même si c'était des conditions très très difficiles, il y a eu énormément de combats sociaux, et ces combats sociaux, ils ont mené à énormément d'avancées aussi. Et ça, il ne faut pas perdre de vue que si on n'avait pas eu tout ça, il y a beaucoup de droits qu'on n'aurait pas acquis, et qui aujourd'hui sont en perte de vitesse, on est en train de perdre certains droits qu'on a acquis de par ces combats-là aussi. Donc voilà, donc c'était pas qu'une vision négative qu'on voulait montrer de cette période-là, on voulait aussi montrer un côté visionnaire.
Un autre visage finalement du réalisme social, c'est-à-dire des femmes, c'est-à-dire que finalement dans les collections de musées aussi, quand on cherche, on trouve des femmes représentées et probablement davantage.
Et autres comme des muses ou des modèles très idéalisés. Il n'y a pas que la femme modèle idéalisée, il y a aussi le sujet.
Ouais. Enfin,
voilà. Et donc de ce réalisme social, nous on a voulu montrer une coupure avec la réalité à travers un petit focus qui s'appelle Évasion. Et donc à travers Évasion, non seulement on s'évade en termes de sujet, donc on va être dans des sujets beaucoup plus anodins, une scène de pique-nique au parc, une scène de repos, on a ici la rieuse Jeff Lambeau, c'est une jeune femme qui est représentée, donc c'est une sculpture de plâtre qui est patinée comme si c'était un marbre, et en fait elle sourit, elle a ce regard et cette vision sur le visage tellement joyeuse comme ça qu'elle donne à sourire aussi. Et c'était l'idée de pouvoir montrer qu'il y a aussi des moments où, de détente où, en parallèle à la période du réalisme social, il n'y a pas que le travail aussi, il y a toute la vie à côté. Et Dieu sait, comme à Charleroi, on aime faire la fête, s'amuser, on aime s'évader. Donc voilà, on retrouve ça un peu ici, dans des scènes un peu plus anodines, et aussi à travers les techniques, parce qu'on va commencer à la fin du 19e siècle et surtout début 20e siècle avec les avant-gardes, on va découvrir d'autres techniques artistiques, on va tester d'autres techniques, on va vouloir révolutionner un petit peu, donc on est dans tout ce qui est technique beaucoup plus expressionniste, ou avec un jeu de texture, un jeu de pinceau qui est tout à fait différent. On a la peinture en tube qui se développe, donc on va aller capter la nature sur le vif, les sujets sur le vif, donc ça va aussi créer toute une autre dynamique artistique d'expérimentation qu'on peut retrouver dans cette idée d'évasion. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a une énorme galerie qui vient jalonner tout l'espace des collections permanentes et qui desservent différentes alcôves qu'on a voulu traiter en thématique. Et cette galerie, on a trouvé qu'elle était tout à fait indiquée pour réaliser une galerie de portraits. Et donc quand on se balade dans la galerie, on a toute une vision du portrait à travers les collections chronologiques. Donc on part du 19e siècle, on va vers le 21e siècle. Et notamment, au niveau de cette galerie, on a la chance d'avoir différents portraits réalisés par René Magritte, mais qui ne sont pas des portraits surréalistes, qui sont des portraits en fait d'avant surréalisme, ou du moins des périodes où Magritte se teste, parce qu'un artiste ne devient pas directement le représentant d'un mouvement tel que le surréalisme. Il est passé par une expérimentation de soi, des techniques, des mouvements. Et donc on a des portraits aussi bien expressionnistes, ici de Pierre Bourgeois, fauvistes, c'est aussi un portrait de Pierre Bourgeois. Donc il faut savoir qu'on a la chance d'avoir dans le legs Pierre Bourgeois une clause qui dit que le legs doit être exposé à Charleroi. Et donc même s'il appartient à la Fédération ou à Bruxelles, on a la chance de pouvoir l'exposer dans nos collections. Voilà, donc ça c'est vraiment une chance. Et puis on a La Baigneuse, qui est une œuvre du Musée des Beaux-Arts, qui est une œuvre à part entière, parce qu'on ne sait pas très bien quelle est la référence. Donc c'est une femme en maillot de bain, tout en rondeur, donc très constructiviste, comme ça, avec des formes très très rondes, une coupe des années 20, une coupe très courte, noire, comme ça. Elle nous fixe de son regard, elle est allongée sur une méridienne. Et puis on retrouve la sphère qui est très caractéristique de Magritte, le petit grelot, comme certains l'appelleront, qu'on retrouve dans ses œuvres surréalistes. On a la tenture qui est aussi quelque chose d'assez surréaliste. Donc on retrouve les tentures, par exemple, dans les œuvres de Dali aussi. Donc il y a ce côté mystérieux derrière la tenture. Et puis on a un arrière-plan où on s'imagine que c'est un ciel avec... avec une mer, ce n'est pas encore le ciel à la Magritte avec ses nuages, ciel bleu nuage. Et on est dans une œuvre qui pourrait aussi être abstraite à certains moments. Donc c'est vraiment une œuvre qu'on ne peut pas relier à un mouvement particulier, c'est une expérimentation de Magritte autour de La Baigneuse.
Voilà. Et oui, et là, dans ce mur, en quelques mètres, on a trois modèles ou trois exemples vraiment frappants d'expérimentation de René Magritte.
Tout à fait.
Ouais. Parce que Magritte, peut-être pour rappeler, est née.
Tout à fait, oui, c'est ce que je vais expliquer.
Pardon.
Non, il n'y a pas de souci. Donc en fait, de ce côté évasion, donc on s'évade de la réalité. Nous, ce qu'on a voulu, on a voulu enchaîner par le surréalisme, parce que le surréalisme, c'est ça, c'est s'évader de cette réalité, reconstruire une nouvelle réalité imaginaire, pleine de mystères. Donc ils avaient énormément de techniques pour s'évader intellectuellement. Et donc dans cet espace, on a évidemment René Magritte, on a Paul Delvaux, mais on a aussi des artistes surréalistes de la région. On a notamment Gilbert Dumont, Victor Lefebvre, qui était son époux, et Jean Rancy. Alors Gilbert Dumont, c'est un art de précision. C'est presque du miniaturisme, si je peux dire. C'est-à-dire que quand on s'approche de ces œuvres, il faut qu'on les voit de près. C'est très important parce qu'il y a énormément de petits détails qui composent ces œuvres. Et dans ces détails, c'est tellement précis que c'est assez impressionnant. Donc on pourrait presque prendre les légumes qu'elles représentent. Ils sont tout petits, mais ils sont tellement précis. On sait exactement quelle est la nature du légume. Un poireau, une carotte, etc. Ça s'identifie vraiment. C'est assez impressionnant. Les fleurs aussi ont une texture. Voilà. Et puis on retrouve aussi dans les paysages d'arrière-plan énormément de détails. On pourrait presque dire où cette rue se situe à Charleroi. Tellement c'est
on
précis.
On reconnaît. Ouais.
Voilà. Donc c'est vraiment assez impressionnant, son œuvre. Et même chose pour Victor Lefebvre, dans un format aussi petit que celui-ci. Donc là, on est dans un format qui n'est pas plus de 10-12 sur la même chose, donc c'est un petit carré. On a un bouquet de fleurs dense, avec un détail de chaque fleur, où on peut, je pense que quand on s'y connaît, reconnaître aussi bien les roses que les tulipes, que les pivoines, voilà, avec une nature morte à l'avant-plan extrêmement petite. Donc voilà, ça c'est la magie, c'est un travail de précision incroyable. Il faut savoir que Gilbert Dumont n'était jamais satisfaite de ses œuvres, donc elle n'hésitait pas à les détruire si ça ne lui convenait pas. Donc ça prenait énormément de temps à réaliser.
Là, il y a une particularité justement sur ce pan de mur consacré à Gilbert Dumont, c'est qu'il n'y a pas de cadre et les tableaux sont sur un fond...
Sur de la feutrine noire.
Noire. Est-ce que c'est une volonté de l'artiste
Oui, c'est sa technique. Donc la plupart de ses œuvres, à part la ville là-bas qui est encadrée, aussi bien elle que son mari, l'idée était de vraiment pouvoir maroufler la toile à cette feutrine noire. Voilà, c'est une particularité. Et la technique qu'elle emploie est une particularité aussi. Donc voilà, c'est assez intéressant comme œuvre. Et puis on a évidemment René Magritte. René Magritte est né à Lessines, mais a grandi à Châtelet. Il a parcouru les rues de Charleroi dans son jeune âge, jusqu'à l'adolescence. C'est à Charleroi qu'il découvre Fantômas quand il se balade dans des librairies. C'est à Charleroi qu'il va au cinéma au début et qui commence toute sa culture du cinéma, qui va l'influencer également. C'est à Charleroi qu'il rencontre pour la première fois Georgette, qui sera sa femme, sa muse, son modèle, son inspirante, son assistante même. On va même jusqu'à dire ça de nos jours. Et donc il la rencontre pour la première fois ici à Charleroi, il la perd de vue et puis il la retrouve sur la foire du Midi à Bruxelles et là il ne la lâche plus. Il ne la quitte plus parce que sinon, où est-ce qu'il va la retrouver la prochaine fois? Voilà, et donc ça c'est aussi ici. Et puis bon, c'est à Charleroi qu'il vit aussi un épisode traumatisant, le décès de sa maman qui se suicide dans la Sambre. Donc voilà, ce sont toutes des épreuves de vie qu'il a certainement marquées d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et puis on a dans le musée la chance d'avoir l'étude de la Fée ignorante, donc qui est l'œuvre devant laquelle on se situe, qui en fait est l'étude de la fresque qu'on peut retrouver dans la salle des congrès du Palais des Beaux-Arts. Et donc cette Fée ignorante, c'est... Donc on a la Fée au centre, qui est une femme, qui a les yeux comme fermés, au monde, donc on ne voit pas la couleur de son iris, de sa pupille. Elle a à sa gauche une bougie, mais ce n'est pas une bougie qui éclaire, c'est une bougie qui obscurcit. Donc elle n'amène pas la lumière, mais l'ombre. Et donc c'est en ça aussi que ça crée cette idée d'ignorance. Et on a dans l'œuvre toutes sortes de références à Magritte. Donc c'est une œuvre de 1956, donc c'est une œuvre qui est relativement tardive dans sa création. Magritte meurt en 1967. Il est né en 1898. Donc voilà, on est quand même dans un Magritte expérimenté qui est peint depuis déjà un certain temps. Et donc on retrouve toutes des références à ses œuvres. On va retrouver la sphère caractéristique qu'on a dans beaucoup d'œuvres de Magritte. Donc cette sphère, ce gros lot, hein, comme je disais tout à l'heure. On a la petite cavalière sur son cheval, qui est aussi une référence, donc on va la retrouver beaucoup dans les œuvres de Magritte. Les arbres-feuilles, donc ce ne sont pas des vrais arbres, mais des feuilles qui représentent les arbres. On a ce jeu entre le clair et l'obscur à travers des bâtiments très classiques, des maisons classiques, donc grises, blanches. On a le ciel à la Magritte qu'on ne décrit presque plus avec cette densité de nuages sur ce bleu assez impressionnant. On a ce jeu de jour et nuit qui se confrontent à travers la petite lune qui apparaît dans le ciel de jour. Et alors on a le petit bonhomme à chapeau melon, hein, avec ce costume. Il faut savoir que Magritte s'habillait comme ça, mais qu'avant lui, son père, en fait, il a vu durant toute son enfance son père s'habiller de cette tenue-là. Donc voilà, donc il y a certainement une référence à ça dans son œuvre. Et puis on a ce poisson-pierre qu'on peut retrouver aussi dans différentes œuvres de Magritte. Voilà, donc c'est un peu un condensé. C'est une œuvre qui est extrêmement magnifique. On y retrouve, j'allais l'oublier, la belle colombe qu'on retrouve assez souvent aussi dans l'œuvre de Magritte. Voilà.
Et c'est un triptyque, hein. Il y a trois panneaux. Oui. Et c'est un tableau tout en longueur.
C'est ça, donc comme c'est la fresque qui orne la scène de la salle des congrès, elle est tout en longueur, elle fait 3 mètres de long, en fait. Donc c'est 3 panneaux d'un mètre qui est une étude extrêmement aboutie parce que c'est une œuvre à part entière, même si elle a été pensée pour être montrée au commanditaire, pour qu'il la valide afin qu'elle soit reproduite en fresque.
Oui, mais voilà. Pour faire comprendre, c'est complètement coloré, c'est un tableau qui est abouti, oui. On ne pourrait pas dire comme ça que c'est une étude.
Non. Si on n'a pas vu la fresque dans le Palais des Beaux-Arts, c'est une œuvre pour tout le monde, au même titre que les autres. Elle est extrêmement finie, oui. Voilà. Alors, après le surréalisme, on s'évade, je vous l'ai dit, à Charleroi, on aime faire la fête. Dans le Hainaut, on a beaucoup de folklore. À Charleroi aussi, donc on a le carnaval, on a les marches de l'entre-Sambre et Meuse, et donc c'est les reconstitutions des marches napoléoniennes. Et vous avez des artistes comme Fernand Verhagen qui va s'amuser à représenter tout ce folklore. Donc ici, on a le carnaval de Binche, mais on a aussi ce qu'on appelait des pasqués. Et les pasqués, ça n'existe plus aujourd'hui, mais à l'époque, une pasquée, c'est quoi ? C'est tout un groupement de personnes déguisées qui arrivent sur une charrette, sur une place publique, et qui va annoncer aux gens toutes sortes de choses totalement loufoques. Et là, autour de ça, on boit, on fait la fête, on s'amuse, on rigole, etc. Donc voilà, il y avait vraiment cette tradition-là. Et encore aujourd'hui, dans le wallon de Charleroi, quand on dit « tu me fais une pasquée », c'est un peu « tu me fais une blague, c'est une farce, tu rigoles ». Voilà, et donc la pasquée existe encore, en tout cas dans les termes, mais pas dans
le vocabulaire. Ouais.
Voilà. Et puis on a à côté d'artistes locaux toujours cette idée de faire des références à l'histoire de l'art général. On a aussi James Ensor et les masques, avec cette idée de James Ensor qui est de dire que chacun, nous portons des masques et donc on n'est jamais réellement qui on est. Et donc voilà, il y a toute cette réflexion autour des masques de James Ensor, avec cette technique presque expressionniste qui lui est propre. On a Edgar Tiga qui lui montre un jour de joie, de fête, et là on est plus sur du théâtre de rue. Et puis on a aussi une œuvre d'Antocarte qui est assez exceptionnelle, parce que l'œuvre d'Antocarte qui est là, c'est la Péricole, donc c'est un opéra d'Offenbach. Donc c'est le personnage qui est vêtu de sa robe avec crinoline, donc une robe très ample, très colorée. Le personnage est très maquillé et elle s'observe dans un miroir. Il faut savoir que Antocarte, c'est un artiste du réalisme social. Donc, c'est un artiste qui va représenter plutôt le monde ouvrier et souvent avec un côté très négatif, très mortuaire. Et donc, c'est exceptionnel de voir une œuvre d'Antocarte aussi colorée, avec un sujet aussi anodin. Dans son parcours créatif, ça n'existe pas deux fois. Et donc, on ne sait pas exactement dans quel contexte il l'a peint, pourquoi, mais ce qu'on sait, c'est qu'il adorait le piano, la musique, et que son opéra préféré était la Péricole d'Offenbach. Alors voilà, est-ce que c'est juste une œuvre pour lui, tout seul ? Mais en tout cas, elle est radieuse, elle est lumineuse, elle est riche en couleurs, en textures, ouais. Voilà.
Mais c'est un petit format. Donc la robe est très gonflée et on voit les empattements, il y a beaucoup de matière.
Tout à fait.
Et c'est extrêmement coloré.
Voilà. Et donc pour balayer la réalité totalement, on entre dans l'abstraction. Et donc on a l'abstraction lyrique avec des artistes comme Marcel Windevogel, Berthe Dubail, Yves Villers. Où là, l'abstraction lyrique, c'est quoi ? C'est une manière de pouvoir rendre une certaine émotion, des sentiments, à travers une représentation qui est non figurative, c'est-à-dire qu'on ne représente rien de reconnu, qu'on pourrait identifier. On est vraiment dans du geste pur, de couleur, de matière, etc., où on fait naître tout ce ressenti, toutes ces émotions qu'on aimerait pouvoir faire transparaître dans l'œuvre. Et à côté de ça, on a l'abstraction géométrique, où l'abstraction géométrique, comme son nom l'indique, c'est vraiment un jeu de lignes, de formes, de couleurs qui vient structurer la toile, tout simplement. Et donc, on a une œuvre de Joe Delao ici, dans les tons bleus, avec une forme, c'est une forme non identifiable. On a aussi bien des lignes droites que des courbes. Avec cette richesse, c'est une œuvre qui est très très grande. Donc voilà, avec cet énorme aplat bleu. Et puis, en fait, il faut savoir que Joe Delao n'a pas fait que des œuvres abstraites peintes, mais il a aussi réalisé des meubles et des céramiques. Et donc, on a la chance, au sein du Musée des Beaux-Arts, d'avoir trois céramiques de Joe Delao, avec cette particularité du motif géométrique, des formes qui s'imbriquent de la ligne, avec ce contraste de couleurs entre les noirs, les beiges, les gris, les... Voilà,
les oranges. Qui sont présentés du coup...
Juste en confrontation de l'œuvre abstraite bleue. Oui, voilà. Et puis on a l'abstraction particulière de Mick Kinney, qui elle est aussi bien lyrique que géométrique, parce qu'elle fait référence à ces deux courants. On est dans une grande gestuelle. Et là, ici, dans son œuvre de Pégase, elle va intégrer une figure. Donc, c'est-à-dire qu'elle retourne tout doucement à la représentation de choses qui existent à travers Pégase, même si Pégase est lui-même constitué de gestes, de techniques artistiques où en fait les couleurs sont posées gestuellement avec des va-et-vient, des lignes, etc. Donc ce n'est pas Pégase en soi, c'est la forme de Pégase qui est représentée dans un coup de pinceau très gestuel. Voilà. Elle est très, très, très colorée aussi, ça, c'est vraiment très agréable entre ces verts, ces bleus, ces oranges, ces roses. Et puis elle nous permet en fait d'arriver vers l'art contemporain. Donc dans l'art contemporain, on peut très bien être dans la figuration, donc dans un art très classique, très représentatif du monde réel, comme on peut être aussi dans de l'abstraction, dans de l'installation, dans le média aussi. Hein, donc le multimédia intervient beaucoup dans l'art contemporain. Donc on va varier tous les médiums, on va essayer d'exprimer des propos tout à fait divers. Et en fonction de chaque artiste, on a une sensibilité autre. Et c'est un peu la richesse aussi de l'art contemporain, c'est qu'on peut aller dans toutes des voies différentes au niveau artistique. On n'est plus comme dans les avant-gardes, dans la rupture avec le passé. On peut aussi faire référence au passé. On peut reconstituer un passé autre, on peut inventer un futur. Voilà. Donc l'art contemporain, c'est beaucoup de réflexion, aussi autour du médium, autour du sujet, autour de la société en général, des valeurs. Voilà. Et c'est ce qu'on retrouve ici avec notamment Johan Meul et Lucie. Donc on a la reproduction de Lucie en plâtre, donc Lucie cette première femme. Et en fait il se trouve que sur la tête de Lucie il y a un voilier d'époque, hein, vraiment un voilier en plus 18e, 19e siècle avec toute voile tirée. Et ça représente la colonisation. Mmh. Et logiquement, Lucie, quand elle s'allume, elle a un écran derrière elle. Et sur cet écran, voilà, donc le bateau bouge, il s'allume. Donc on a toutes les petites... Et quand l'écran se met en route, on va avoir les propos, les discours de Martin Luther King, Lucy, I have a dream, donc ça prend un petit peu de temps, parce qu'il n'y a personne qui est passé derrière avant nous.
Et Lucy, là, elle tient dans sa main gauche une lampe.
Une lampe de mineur.
Et à droite, une machette.
Et une machette. Et donc voilà, on a le...
Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
Voilà. Et ça termine sur Les origines du monde de Gustave Courbet, qui est cette œuvre qui est l'entrejambe d'une femme. Et donc voilà, c'est une œuvre du romantisme. Gustave Courbet avait l'art de choquer de par ses représentations. Et ici, il faut savoir qu'au 19e siècle, montrer une peinture de l'entrejambe d'une femme a été quelque chose d'entièrement controversé, scandaleux. Voilà, c'était catastrophique, il a été refusé de tous les salons. Voilà. Mais il avait raison d'une certaine manière. L'origine du monde, ça passe aussi par là. Voilà. Et puis à côté, on a des artistes comme Michael Matisse, par exemple, qui est un artiste de Charleroi, et qui notamment a créé toute une série de peintures à partir du sang, donc dans un premier temps de son propre sang et ensuite de sang de bovin. Donc il mélange son sang au pigment. Et ici on a une œuvre qui est La Ville Rouge et qui représente le mineur de Constantin Meunier qu'on peut retrouver sur le pont de la gare. Donc c'est aussi une référence évidemment à tout le passé industriel et de Charleroi qui nous habite et qui fait référence. Voilà. On a d'autres artistes comme Bénédicte Henderich, Daniel Fauville, Alain Bornin, qui ont toutes des réflexions soit sur le paysage industriel, sur la consommation. On a Benoît Piret avec une réflexion autour de l'immigration aussi. Charles Lesquaise nous parle de la foule, du monde, de la densité du peuple, etc. Donc voilà, on a vraiment toutes des visions tout à fait différentes de l'art et des techniques artistiques autres. Et donc dans la galerie, ben, on a aussi des portraits contemporains, comme ici ces deux petites dames de Marie Rosen, qui est aussi une artiste contemporaine, plus sur Bruxelles. On a Christiane Loriot, qui était une artiste de Charleroi, qui est décédée il y a peu de temps, qui a fait énormément de portraits. Mais on a aussi des artistes comme Léon DeVos, on a des Camus, Gustave Camus. On a voulu que les gens ne se perdent pas en chemin, qu'ils puissent vraiment retenir quelque chose, qui n'est pas à devoir... qui vivent une histoire, en fait, hein, qui suivent un parcours. Donc ça a été vraiment une réflexion dense de pouvoir... quelle œuvre va permettre de faire le lien avec l'autre, l'autre espace, comment on va pouvoir aussi faire le lien entre les œuvres qui ont été exposées. C'est pas juste placer des œuvres dans un espace, on a vraiment essayé de se mettre à la place du visiteur, de comment on allait vivre l'expérience, qu'est-ce qu'on allait pouvoir en retenir. Et cette structure de parcours, nous on trouvait que ça permettait vraiment de pouvoir vivre le musée différemment.
Alors après les réouvertures, les visiteurs sont au rendez-vous, puisque tu disais tout à l'heure 10 000 visiteurs en 3 mois.
C'est ça. Oui. Donc on est vraiment content parce qu'on touche aussi bien le visiteur lambda que le spécialiste, on va dire ça. On a énormément d'écoles. Donc ça, c'était vraiment très, très important pour nous de pouvoir retoucher le jeune public. Les ados, etc. Et donc on a la semaine, on est généralement empli de cris d'enfants. Donc le musée est vivant et les enfants s'approprient le lieu. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Ils se sentent à l'aise ici. Voilà, juste pour la petite anecdote, quand ma petite fille de 4 ans a vu le musée pour la première fois, elle s'y est sentie tellement chez elle qu'elle m'a demandé où était le salon pour pouvoir aller s'asseoir. Donc voilà,
ça,
donc
c'est un bon signe.
Je trouve que c'est ça qui, ça veut dire qu'on se sent bien ici, on se sent comme chez soi. Et ça, c'est vraiment très important parce que c'est toute notre histoire, tout ça, ça nous appartient, c'est un bien collectif. Et la culture, ça forge l'éducation, ça développe les idées, ça ouvre un esprit critique. Voilà, et donc de toucher tous ces jeunes, c'est super chouette. Et puis on a les week-ends, on a énormément de publics familiaux, on a des étrangers, on a réussi notre challenge de renouer avec le public, donc on est content.
Ah, bravo.
Voilà.
Merci beaucoup.
Avec grand plaisir.
Je suis Charlotte, je travaille en tant qu'employée d'administration au musée des Beaux-Arts de Charleroi. Je suis huissier de musée, donc cela consiste à être polyvalent, on fait de l'accueil, on surveille notamment les deux expositions qui est la permanente sur les œuvres des Beaux-Arts de Charleroi et l'exposition du Puy qui se tient jusqu'au 30 juillet.
Alors, il y a beaucoup de visiteurs qui sont venus depuis la réouverture. C'est un succès.
Oui, ça a très bien fonctionné. On a eu beaucoup de visiteurs, environ 10 000. Nous sommes ouverts depuis 3 mois bientôt. Et ça a très très bien fonctionné. Nous sommes très contents.
Alors qu'est-ce qu'ils disent ces visiteurs quand on est comme ça dans les coulisses, qu'on est dans les salles? Qu'est-ce qu'ils racontent?
Que ça leur fait plaisir d'avoir vraiment un musée... un musée aussi bien éclairé, lumineux. Ils préfèrent être ici qu'au Palais des Beaux-Arts, qui était plus petit. Il y a beaucoup plus d'espace dans ce musée, dans ce lieu.
Est-ce que vous avez envie de rajouter autre chose sur cette expérience?
Juste que je suis fière de travailler ici. Ça fait 3 mois que nous avons été engagés dans le musée et je suis très fière de représenter ce lieu. Voilà.
Très bien, merci. C'est chouette d'être fière. C'était mon cabinet de curiosité au musée des Beaux-Arts de Charleroi à l'occasion de sa réouverture. Je vous invite à découvrir l'exposition consacrée aux éditions du Puy jusqu'au mois de juillet 2023. Merci à toute l'équipe du musée pour son accueil, très chaleureux et sympathique, particulièrement à Eve pour la visite, à Charlotte pour son témoignage, ainsi que Carole au tout début de l'émission.
Merci de votre écoute. À très bientôt.